France Inter, franceinter.com.
Pour l'instant, vous retrouvez Denis Chessou sur France Inter pour CO2, mon amour.
Merci beaucoup Stéphane Leneuf et nous sommes aujourd'hui du festival de Mouans-Sartou, donc avec deux invités, Pierre Rabhi et Jean-Claude Carrière. A tout à l'heure Stéphane.
CO2 mon amour avec Gamard, dermocosmétique adulte bébé, certifié bio et 100% d'origine naturelle, en pharmacie et parapharmacie.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de consommer en rond, donc CO2 mon amour, avec nos amis de France Bleu Côte d'Azur à la technique que nous remercions chaleureusement, d'abord parce qu'il fait beau et qu'il fait chaud ici à Mouans-Sartou, Rémi Martinez, Pierre Schwab, Olivier Claude, sans oublier Jean-Luc Suchot donc, qui nous accompagne, et assisté de Sophie Ledoré et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Bienvenue donc au Festival du Livre de Mouans-Sartou et pour commencer, un grand merci à Gutenberg, alchimiste de génie, qui invente la transmutation du plomb en caractère d'imprimerie plutôt qu'en balle à sanglier. Merci pour les romans, les dictionnaires, les livres de poche, merci pour tous ces mots qui sont pleins d'ambition, des mots pour décrocher la lune et pourquoi pas construire notre maison du futur à coup d'imagination plutôt que de blocs béton. Alors vous me direz, combien d'arbres faut-il abattre pour les imprimer, ces livres que vous nous présentez? Eh bien justement, tout ça voyez-vous, c'est autant de CO2 épargné à l'atmosphère. Un livre c'est un peu de carbone qu'on emporte avec soi. D'ailleurs c'est bien simple, chaque fois que je prends la voiture plutôt que le vélo, pour compenser par carbone, eh bien je passe chez mon libraire. Alors, vous l'avez compris, ici à Mouans-Sartou, on fait de la résistance. Résistance, origine du futur. Point d'interrogation, c'est le thème cette année de ce salon. Résistance au changement climatique, parce que c'est vrai qu'on les aime bien, nos glaciers, nos banquises. Résistance à la course, à la croissance à tout prix, parce qu'on n'a pas forcément envie de voir notre économie finir dans le décor et la terre se transformer en supermarché géant. Résistance aussi au projet des balcons du Mercantour. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à deux pas d'ici. Avec, on va dire, une lecture assez inédite du principe de précaution par le Conseil général des Alpes-Maritimes, version « je mets la charrue avant les bœufs », du genre « on bétonne d'abord et on organise la concertation après, je vais vous expliquer ». Sauf que crise de l'immobilier ou pas, eh bien vous savez ce que c'est. Il y a déjà plus de 600 km de sentiers dans ce superbe parc national du Mercantour et on souhaite en aménager 140 supplémentaires plus faciles pour les familles, 3 ou 4 refuges, alors qu'on pourrait très bien réaménager l'existant. Et puis, ni vu ni connu, vous savez ce que c'est, on dénature un parc national, champion du monde de la diversité. Mesdames, messieurs, bienvenue à Mercantourland, notre parc d'attractions 100% nature. Les aciers sont de chez Mittal, les bétons sont de chez Lafarge et les antennes relais de chez Bouygues Télécom. Mercantourland, c'est la nature tout confort. Promenez-vous sans souci, vous ne serez jamais plus à une heure à pied de nos relais McDo et de nos formules hôtel avec télévision et jacuzzi à tous les étages. Et oui, après les paquebots des neiges et autres inasquis du siècle passé, vous croyez que c'en était fini des promoteurs de la montagne clé en main? Eh bien, détrompez-vous, ils sont toujours là. Dites-moi, docteur, comment fait-on pour les reconnaître, les envahisseurs? Eh bien, élémentaire, mon cher Watson, à leur vocabulaire. Amis promeneurs, la prochaine fois que vous entendez un futur élu promettre qu'il fera tout pour cimenter les solidarités régionales, un bon conseil, passez votre chemin. Alors une belle salle bien complète, vous êtes 600 ou 700 aujourd'hui, et puis quand même 500 ou 600 000 à nous écouter tous les samedis après-midi sur France Inter, on vous en remercie. Nos deux invités, Pierre Rabhi et Jean-Claude Carrière. Alors Pierre Rabhi, j'allais dire que vous êtes un jardinier planétaire, un peu à l'image d'un autre homme qui s'appelle Gilles Clément. Vous pratiquez le respect de la nature et le retour à l'humanisme. Vous avez organisé votre vie selon une simplicité tout à fait volontaire. Comment vous pourriez vous définir en vous disant que vous appartenez à quoi? Bien sûr, à notre espèce humaine, mais au-delà de ça, Pierre Rabhi.
J'ai appartenu à beaucoup de choses, à une culture initiale qui était l'islam. J'ai appartenu à une communauté qui est une communauté traditionnelle. Ensuite, le destin m'a fait plonger de la tradition à la modernité par ma famille d'adoption. Et puis, pendant longtemps, j'ai cheminé dans cette double appartenance, en quelque sorte, ce qui, évidemment, crée en soi un dilemme, c'est-à-dire quand on appartient à deux peuples avec deux cultures, eh bien, il y a des ingrédients qui sont compatibles et d'autres qui ne le sont pas. Mmh. Et de ce fait, tout le chemin initiatique commence par comment retrouver l'unité. Quand vous êtes de l'islam et du christianisme, ne serait-ce que par exemple quand vous allez à l'école coranique, qu'on vous dit que Dieu est transcendant, donc il n'a ni engendré ni été engendré, et que de l'autre côté on vous parle d'un Dieu en trois personnes, il y a de quoi faire des déflagrations.
Oui, c'est ça.
Voilà.
On peut péter un peu les plombs.
Des déflagrations intérieures. Et ensuite, vous êtes encore un pied dans quelque chose, dans vos souvenirs d'enfance, d'un enfant du désert, qui, quand il regardait le désert, c'est une espèce d'immense gouffre horizontal.
Mais alors, en même temps, Pierre Rabhi, c'est vrai que vous avez grandi, on va dire, avec les contraintes du désert et aussi le miracle de l'eau. Et ça, après, vous vous en êtes servi parce que vous êtes arrivé après en France, vous êtes devenu OS dans une banlieue et puis vous vous êtes dit, non, cette idéologie-là, c'est pas pour moi. Ouais. Donc, vous quittez en 1960 la région parisienne, vous arrivez aujourd'hui chez vous dans le département de l'Ardèche. Et là aussi, vous commencez à mettre un petit peu en expérience ce que vous avez vécu dans le désert, parce que votre grande idée, c'est d'avoir voulu faire, vous le parsemez un peu partout dans le monde, l'agroécologie. Alors, qu'est-ce que c'est l'agroécologie ?
L'agroécologie, c'est en quelque sorte, pendant longtemps, la modernité a fondé la production agricole sur les théories, en particulier de Liebig, c'est-à-dire le principe NPK. C'est-à-dire on prend des substances chimiques... Nitrate, phosphate et potassium. Vous ajoutez ça, du calcium. Et on a pensé qu'avec ça, on allait pouvoir finalement nourrir l'humanité, puisque effectivement, ces substances provoquaient quelque chose de miraculeux en termes de production. Voilà. Et ensuite, petit à petit, il y a eu une dérive, c'est-à-dire qu'on est allé de plus en plus vers la chimie, et on a mis du temps à s'apercevoir que finalement la terre est un être vivant et qu'on ne peut pas le traiter comme un substrat dans lequel on met simplement des substances de synthèse pour qu'il produise. Voilà. Et je pense qu'il faudra un jour déclarer l'agriculture moderne sans procès des personnes comme l'une des grandes catastrophes écologiques de l'histoire de l'humanité.
Et donc comprendre le monde pour vous, c'est avant tout comprendre la terre et comprendre le sol qui nous porte.
Évidemment, il y a une telle ignorance, c'est-à-dire que nous consommons tous de la nourriture. Ce qui est affligeant, c'est que la terre, ce n'est pas une métaphore que de l'appeler mère, c'est une réalité. Terre-mère est la plus ignorée.
La terre-mère, c'est la roche, quoi, c'est ça au départ.
Comment ?
On va dire la terre-mère aussi, quand on parle de ça au départ, lorsque l'humus va se former, au départ, ça vient effectivement de la roche, des minéraux.
Bien sûr, ce qu'on appelle, la terre-mère en tant que nourricière de l'humanité, et elle est née elle-même de la combinaison entre le minéral et l'organique. Et ce minéral et l'organique se complexifie et donne ce qu'on appelle le complexe argilo-humique qui donne les 20 ou 25 cm de terre auquel nous devons la vie. Oui. Et nous devons tous la vie à ces 25 cm de terre. Ensuite, il y a un élément majeur l'alchimie de la terre, c'est ce qu'on appelle l'humus. L'humus, c'est le résultat d'une autre alchimie de dégradation des matières organiques transformées petit à petit par une foule de micro-organismes, d'insectes, etc., et qui aboutit à cette substance qu'on appelle l'humus, dont d'ailleurs l'étymologie, humus, humanité, humilité, humidité, c'est pareil. Ouais. Même étymologie. Ouais. Donc c'est la quintessence, en quelque sorte, qui aboutit à travers cette transformation, un principe fondamental qui est celui de la vie. Il n'y a pas de vie terrestre sans humus.
Alors, il y a un homme qui vous écoute évidemment avec beaucoup d'intérêt, c'est Jean-Claude Carrière qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Jean-Claude Carrière.
Bonjour.
Vous êtes, vous, on va dire, plutôt un homme de culture extensive, hein, et non pas de culture intensive. Vous êtes un homme qui guettait donc le merveilleux. Je sais qu'à l'âge de 6 ans, ça, on vous la resserre assez régulièrement, mais enfin, vous avez voulu mettre un petit Bouddha dans la crèche du côté de Colombières-sur-Orbe, donc ça faisait un peu désordre, quoi. Qu'est-ce qu'on vous avait répondu d'ailleurs à cette époque-là?
Non, j'ai demandé ça à ma mère qui me disait qu'est-ce que tu veux mettre dans la crèche. J'ai dit un Bouddha parce que certainement ce mot, je l'avais trouvé dans un de ses premiers recueils de contes indiens pour enfants, sans savoir vraiment. Alors ma mère n'avait jamais entendu parler du Bouddha, est allée demander au curé est-ce qu'on peut mettre un Bouddha dans la crèche. Et le curé lui a dit oui, je crois que c'est un philosophe chinois. Elle est allée à Bédarieux, la ville la plus proche, et elle y a trouvé, et je doute qu'on l'y trouve encore aujourd'hui, un Bouddha en plâtre. Peint, mais grand comme ça, de 30-35 cm.
Oui, c'est presque un jardin.
Qu'elle m'a ramené, que nous avons mis dans la crèche, qu'il écrasait évidemment les santons. Il était comme une sorte d'extraterrestre. On l'enlevait quand les voisins venaient. Et ce Bouddha, je l'ai toujours dans ma maison d'ailleurs. Je le salue chaque fois que j'y vais. Il est toujours là.
Alors Jean-Claude Carrière, vous faites partie de ces enfants à qui on n'a pas forcément appris les mots de l'économie comme on le fait évidemment aujourd'hui, mais les mots de la nature, de la terre et du vivant. Et ça persiste. Je vais presque dire aussi que c'est une espèce de fil conducteur que vous avez tout au long de votre vie.
Non seulement les mots, mais les choses. C'est-à-dire ma première culture a été une culture de petits paysans français. On m'a appris, mon père m'a appris, parce que je devais prendre sa succession dans une toute petite propriété, les gestes d'un paysan. Et encore aujourd'hui, je sais greffer un arbre, labourer avec un cheval, ce qui doit être assez rare. Je suis probablement le seul scénariste européen, je le dis souvent, à savoir labourer avec un cheval, à condition de trouver un cheval qui sache, ce qui n'est pas si assuré.
C'est pas si évident que ça.
Et j'ai toujours la maison où je suis né, j'y vais régulièrement, et j'ai pu assister, je suis évidemment beaucoup plus âgé que Pierre, j'ai pu assister à la dégradation lente mais sûre de mon environnement, c'est-à-dire que proche, c'est-à-dire qu'il y a des sources auxquelles je buvais dans mon enfance et qui sont taries, qu'il y a des ruisseaux qui ont perdu la moitié de leur eau, qu'il y a des espèces qui ont disparu et d'autres qui sont apparues, que cet été encore, j'ai trouvé la chenille énorme et verte d'un papillon que nous n'avions jamais vu jusque-là, et qui arrive, etc. C'est-à-dire, j'ai assisté à ce, je ne veux pas dire dégradation, disons changement.
Il avait ses papiers, le papillon?
Non, mais quelqu'un m'a dit, une fille de 11 ans m'a expliqué ce qu'était ce papillon, parce qu'elle était, elle, du village. Et puis, grandi dans cette culture, j'ai évidemment vécu dans une autre. J'ai fait des études et puis j'ai vécu né dans une maison où il n'y avait pas de livres, pas un seul. J'ai fini bibliophile et écrivain. Mais en même temps, je n'ai jamais oublié ce début dans la vie. Et je crois avoir été dans les années 60, bien avant 68.
Un des premiers à parler d'écologie.
Des premiers, oui. Et à écrire et à militer dans les rangs de l'écologie à une époque où c'était absolument saugrenu. Oui. J'ai publié un livre qui s'appelait « Le Paris » en 73. Toutes les informations qu'il y avait dedans sur l'état de la planète, je ne les avais pas inventées. Je les avais trouvées dans d'autres ouvrages ou dans des congrès. Donc, on savait déjà tout. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait déjà. Dans les années 68, 9, 10. Mais on a absolument.
Et d'ailleurs,
rien
si on voit
fait.
Aussi les rapports du Club de Rome, c'est exactement
mais
ça.
C'est exactement ça. 72. Absolument, l'effet de serre, enfin, tout ça était déjà.
Ce
n'était
pas
très
connu. Des dangereux gauchistes écologistes, en plus.
Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce livre n'a pas eu un seul papier. Il est paru, il n'y a pas eu un seul article qui en ait parlé. Nous avons, avec un petit groupe de militants, essayé d'intéresser le Parti socialiste à ces problèmes dans les années 72, 13, 14. On nous a répondu que politiquement, ça n'était pas intéressant.
Comme ils s'en foutent encore un peu aujourd'hui, vous savez.
Et c'est tout à fait étonnant qu'on savait quelque chose, sûrement, avec un élément duquel vous n'avez pas parlé, et qui est peut-être fondamental à tout ce que nous disons, c'est l'élément démographique. Mmh. Et il y avait un livre qui nous fascinait à l'époque de Paul et Catherine, c'est un couple Ehrlich, de chercheurs américains, qui s'appelait La bombe P, P comme population. Et qui, il ne faut pas oublier, peut-être vous n'y réfléchissez pas assez, et moi non plus, que depuis 1968, une année dont nous avons fêté cette année la 40e, jusqu'aujourd'hui, la population du monde a doublé, depuis 68. à une époque où déjà ces problèmes se posaient et que nous attendons 3 milliards de plus d'êtres humains dans les 12 ou 15 années qui viennent. Et cet élément démographique, il y a là quelque chose comme une dimension sacrée à laquelle on n'ose pas toucher. De toutes les personnes que j'ai rencontrées, le seul qui se soit prononcé fermement sur ce point, de ce que, avec qui j'ai pu travailler, a été le Dalaï Lama, qui a dit « la vie est devenue l'ennemi de la vie ». Pour dire une phrase comme ça, c'est comme si nous nous arrachions quelque chose de très, très difficile à dire. Oui.
Il y a un truc très tabou, hein, derrière.
Oui,
tout ça.
Absolument tabou. Ouais, ne touche pas. La vie humaine, c'est sacré. Ouais. Or, n'oubliez pas, et Pierre connaît sûrement ce texte, que déjà Nietzsche, bien avant les études scientifiques, disait « la Terre est un être vivant ». Cet être vivant a une peau de 25 cm d'épaisseur. Cette peau est frappée d'une maladie mortelle, et cette maladie mortelle s'appelle l'espèce humaine. Ouais. Donc, on disait ça déjà, Nietzsche, mais il était probablement visionnaire, mais à la fin du 19e siècle. Mmh. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, nous soyons obligés de faire des réunions comme celle-ci, d'en parler à la radio, alors que nous devrions tous être en pleine action, en plein travail. La seule question, c'est n'est-il pas trop tard ?
Oui. Alors Jean-Claude Carrière et Pierre Rabhi, donc on va continuer ce voyage sur nos doubles peaux, c'est-à-dire celle qui est au-dessus de la tête de quelques kilomètres qui s'appelle l'atmosphère, donc une coquille d'œuf, et puis aussi autre coquille d'œuf et encore plus fine, c'est ce que vous avez dit, donc Pierre Rabhi, cet humus. On vous retrouve dans quelques instants, vous l'avez bien compris, il y a beaucoup d'idées donc qui sont en train de jaillir et on espère que ça va se transformer et reprendre de la belle sève après pour l'avenir. Ce sera juste après Donovan, Mellow Yellow.
Just mad about saffron. Well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. About 14, 14's mad about me. I'm but just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. To fly, a wind of a velocity nil. Born a high forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Sudden grace, electrical banana. It's bound to be the very next phase. They call it Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Just
does have run. She's just mad over me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow.
Toujours en direct de Mouhans-Sartoux avec nos invités Pierre Rabhi et Jean-Claude Carrière, avec ce thème d'ailleurs qui va assez bien avec ce que l'on vit, c'est-à-dire résistance, l'origine du futur. On va pouvoir donc saluer à la fois le maire de Mouhans-Sartoux, André Asquéry, et puis aussi l'organisatrice de ce salon qui est Marie-Louise Gourdon avec toute son équipe de bénévoles, parce qu'il y a vraiment tout un travail qui est effectué. Et on voit en fait une petite plante qui est en train de sortir, Pierre Rabhi, on va dire, d'un sol justement qui a l'air assez dégénéré, qui a l'air assez sec. Ça a été le pari que vous avez pris lorsque vous êtes vous arrivé effectivement en Ardèche. C'est pas une terre évidemment très très généreuse, et vous vous êtes dit on va quand même faire refleurir quelque chose et prouver quand même au monde que même dans des cas un peu désespérés on peut y arriver. Et après vous avez transposé donc ces méthodes là donc d'agroécologie. Alors on imagine que l'agroécologie, parce qu'on connaît le bio, bon, on connaît l'agrobiologie. C'est quoi la différence entre l'agrobiologie et l'agroécologie, s'il vous plaît?
Oui.
Ou bien le prolongement, peut-être.
Oui, d'une façon générale, ce que le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de constats, beaucoup de doctes analyses, et il y a pléthore, en quelque sorte, de constats et déficit de remèdes et de réalisations. L'agroécologie fait partie c'est une approche qui, autant au nord, on dit simplement agriculture biologique. Et quand je me suis retrouvé au Sahel avec les paysans qui avaient été terriblement éprouvés par la grande sécheresse des années 70, ces paysans se sont retrouvés non seulement avec évidemment une terre qui est morte parce que la faune a disparu, la flore a disparu, les sols sont restés dénudés. Et nous sommes dans des zones où la pluie est violente, même si elle est rare, elle est très violente. Et quand il pleut et sur un sol dénudé, eh bien, la pluie, on perd à la fois l'eau et la terre.
Et le sol.
Les deux s'en vont. Donc, ce qui fait que le paysan se trouve chaque année ruiné par le fait que même la terre qui le nourrit s'en va. Voilà. Alors, quand j'ai vu cela, je me suis dit, bon, on ne peut pas simplement appliquer... Ça, c'est en 81, quand je me suis engagé la première fois dans cette problématique suite, effectivement, aux résultats obtenus sur ma terre aride ardéchoise. Sur notre terre aride ardéchoise, où on a dit, finalement, quand on respecte les lois de la vie, qu'on va dans le sens de les lois de la vie, la nature, elle a des capacités de régénération extraordinaires. Alors, quand vous vous trouvez dans un désert, semi-désert, disons, où la désertification est terrible, et bien vous vous dites que faire. Vous ne pouvez pas faire seulement que l'agriculture biologique, vous devez vous intéresser à l'environnement. Ce qui fait que ce qui était simplement agriculture biologique est devenu agroécologie parce qu'on a donné une extension à l'intérêt qu'il faut porter et au travail qu'il faut amener pour régénérer l'environnement naturel lui-même dégradé. Mmh. Autant on fait de l'agriculture biologique qu'en Europe, on a des forêts autour de soi, bah là-bas, il n'y a plus de forêts, il n'y a plus de faune, il n'y a plus de flore, les sols sont desséchés, partent, etc. Et je me suis dit, on ne peut pas simplement appliquer l'agriculture biologique, il faut appliquer aussi quelque chose qui intègre l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est ? En plus de l'agriculture biologique, c'est comment lutter contre l'érosion, parce qu'il n'est pas normal que la pluie qui tombe du ciel soit perdue. Et si nous étions un peu plus intelligents, la pluie du ciel devrait être gérée. Moi, c'est ce que je fais chez moi, puisque j'ai deux grandes cuves de 230 000 litres et je récupère l'eau des toitures. C'est gratuit. Il paraît qu'on va légiférer là-dessus, d'ailleurs. Peut-être que j'aurais plus le droit. Enfin, bon. Et c'est très simple de lutter contre l'érosion. Ce sont des diguettes, ce sont des systèmes qui permettent finalement, au lieu que la pluie dévale et emporte tout, eh ben, vous la freinez. Et en la freinant, elle va s'infiltrer dans le sol. Donc, il n'y a pas meilleur réservoir que le sol pour stocker. S'il y a excédent de ces réserves, ça descend régénérer les nappes phréatiques. Et on a vu des miracles, des villages dans lesquels les gens nous disaient, mais ce puits, il est tari depuis des années, le voir régénérer. Ils sont stupéfaits de voir l'eau revenir uniquement parce qu'on a fait des travaux anti-érosion.
Ce qui fait que vous pouvez prouver maintenant que sur une terre qui est revêche, on peut malgré tout la féconder.
Mais bien sûr, c'est une évidence. C'est tellement évident, si vous voulez, que c'est un travail quand même de longue haleine. J'ai publié un ouvrage sur cette question qui s'appelle le franc de crépuscule et qui est en plus primé par le ministère de l'Agriculture. Donc, je ne peux pas mieux vous dire. Voilà. Donc, ça marche. Seulement, l'approche, si vous voulez, de l'agroécologie, elle doit prendre en compte le facteur humain. Le paysan, partout dans le monde, a été humilié. Il a été considéré comme la dernière catégorie sociale. Sauf que si les paysans faisaient grève, on comprendrait leur... J'aimerais bien une année, simplement une année, grève des paysans. Bon, on fait notre jardin et puis les autres se débrouillent. Eh bien, on verra l'importance du paysan. Donc, notre approche, elle n'est pas simplement technique. C'est pour ça que nous sommes intitulés Terre Humanisme. C'est parce que si vous n'arrivez pas, disons, à travailler dans le cœur et la conscience de l'individu qui est concerné, à lui redonner, à le réhabiliter, à lui redonner sa dignité, à lui faire comprendre par lui-même et non pas une compréhension d'importation le problème dans lequel il vit, vous ne pouvez pas engager les choses simplement sur la technique.
C'est bien pour ça que vous faites la différence entre l'humanitaire et l'humanisme aussi.
Absolument, c'est-à-dire que c'est parce que nous avons organisé le monde sans humanisme que nous avons besoin d'humanitaire. Oui. Ce qui fait qu'on fait ce qu'on appelle pompier-pyromane. À la fois, on détruit tout et puis on est tellement généreux avec nos sacs de riz hein, pour dire « regardez comme nous sommes généreux ». Seulement, on ne compte pas ce qu'on a pris réellement avant de donner. Donc cette situation-là, évidemment, est une hypocrisie internationale validée par les institutions internationales et par tout le monde et qui est une honte. Et en même temps, on se dit, bon, bah, aujourd'hui, la grande défaillance, si vous voulez, puisqu'on est au cœur d'une nouvelle, il va y avoir, comme vous le savez, une crise alimentaire mondiale sans précédent. Et l'Occident ne sera pas épargné. Parce que quand on reprend tous les paramètres concernant cette question-là, dans tous ces paramètres, moi, je les avais prévus il y a déjà 15 ans, sauf que je n'avais pas imaginé qu'il y aurait de l'agrocarburant. Je n'avais pas imaginé que les abeilles seraient détruites et elles participent même à 30% de la pollinisation, à 30%, disons, de notre alimentation.
Oui.
Je n'avais pas l'imposture OGM, parce qu'OGM, c'est OGM. OGM, organisme génétiquement modifié, est breveté, il ne faut pas oublier. Donc la mainmise sur le vivant et l'incapacité d'aller vers ces semences non reproductibles, etc. Donc et le quatrième facteur que je n'avais pas du tout imaginé, c'est des changements climatiques aussi rapides.
Alors, avant qu'on se flingue tous, ce qu'on va faire, Pierre Rabhi...
Pardon ?
Effectivement, avant qu'on ait une grande dépression collective, hein, mais c'est la réalité, en plus c'est la réalité du monde, et puis vous n'êtes pas du tout comme ça sur le fond, parce que vous agissez véritablement...
Ouais, ça pourrait se terminer par une danse pour la pluie.
Voilà, exactement, Jean-Claude Carrière. Et alors, chez vous, et même, c'est-à-dire que cette économie de l'eau, on est rentré dans une économie où la rareté va être la valeur numéro un. Il va falloir effectivement économiser les choses, il va falloir être parcimonieux, etc. C'est une espèce de boucle, parce que vous l'avez toujours connu, je veux dire qu'on faisait attention à l'eau dans le département de l'Hérault, mais même encore ailleurs.
Ce qu'on constate dans un village, si petit soit-il, et même à l'intérieur de ce village, dans une propriété de 2 ou 3 hectares, ce qu'on y constate vaut pour le monde entier. C'est-à-dire que cette parcelle de terre, c'est un miroir de tout ce que nous pouvons subir ici ou là dans le monde. Vous parliez du ruissellement. Derrière ma maison, à Colombières, il y a une montagne qui monte à 1100 mètres et qui, jusqu'à mi-hauteur, a toujours été traditionnellement occupée par des châtaigniers. Des châtaigniers en barres successives qui, chaque barre, était séparée de l'autre par un mur de soutènement.
C'est-à-dire qu'on commence par la montagne.
La terre. Voilà. Et dans chaque 2 ou 3 barres, il y avait un bassin. Un bassin qui ne servait à rien, on n'arrose pas les châtaigniers, sinon à retenir l'eau. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qui s'est passé depuis 60 ans, on ne ramasse plus les châtaignes. Donc tout est redevenu à la friche, à la vie sauvage, rendu aux sangliers, aux mouflons, aux chevreuils. Et du même coup, tous les murs s'écroulent, la terre descend vers le village, on le voit très très nettement, et les bassins sont remplis, c'est rempli de terre, comblés. Donc tout ce système-là qui permettait aux sources, comme vous l'avez dit, et qui permettait aux ruisseaux de remplir leur rôle et qui était établi, si ça se trouve, depuis des milliers d'années, c'était très très ancien, ce sont des travaux dont on nous dit que certains remontent à la préhistoire, en maniant des blocs de pierre quelquefois énormes, de 6 ou 7 tonnes, on se demande même comment c'était possible, tout cela, nous l'avons, et c'est notre faute, laissé totalement dégrader. De temps en temps, chaque été, moi-même, comme mon père me l'avait appris, je refais un mur de soutènement en pierre sèche, parce que je sais les faire. Bon, c'est comme ça, j'ai appris enfant. Et mes amis, mes invités qui viennent me regardent avec curiosité. Ils me disent, mais comment, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Bah, d'abord parce que c'est joli, hein. D'abord c'est beau, un beau mur, c'est beau. Et ensuite parce que je suis sûr que là au moins, j'arrête à un moment donné une partie de la terre qui descend de la montagne, terre argilo-schisteuse avec des éléments de gneiss et de granit qui sinon s'en va. Ça en va pour toujours, tombe dans la rivière et de là part à la mer.
Alors évidemment, quand on transpose cette question-là dans les pays sahéliens, c'est égal oui. famine, c'est oui. égal mort, cadavre, etc.
Et par millions.
Et par millions. Mmh. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a une extension actuellement de cette désertification. J'ai introduit l'agroécologie en 81 au Burkina Faso. Nous avons créé un premier centre de formation pour les paysans, les cadres, etc. Aujourd'hui, je suis, enfin, j'ai pas lieu d'être fier, mais d'être au moins satisfait de savoir qu'il y a 100 000 paysans au Burkina et dans d'autres pays qui au moins pratiquent la fertilisation organique, c'est-à-dire qu'ils reviennent. Et comme vous le savez, ce que je n'ai pas dû de la qualité de l'humus, c'est que quand vous prenez l'humus, vous le desséchez, vous pesez un kilo d'humus, vous le mettez sous un robinet avec un goutte à goutte qui goutte, il retient jusqu'à 5 à 6 fois son propre poids, sans l'avérer. Donc la régulation de l'eau se fait, l'agroécologie intègre cette notion de gestion de l'eau, de son économie, de sa régulation. Et par bonheur, l'humus qui apporte à la fois des bactéries, des ferments bactériens, amène des substances et des nutriments, a aussi cette capacité physique de se gonfler comme une éponge et de retenir l'eau pour la maintenir à la disposition de la plante quand il y a effet dépressif. Parce que dans les climats difficiles, vous avez des précipitations importantes, puis ensuite plus rien. D'ailleurs, ce qui est souvent tragique, parce que vous ensemencez au moment où il pleut, mais comme il ne pleut plus après, et ben la plante, la graine ou la plante se dessèche et il faut recommencer. Voyez. Donc la régulation de l'eau, la gestion de l'eau doit partir sur retenir l'eau, stocker l'eau, avoir une terre qui est pourvue en matière organique suffisamment pour retenir cette eau et ainsi vous luttez contre cette sécheresse et c'est ce que nous avons.
Ce qui vient de se passer il y a quelques jours à Gardaïa, vous avez vu ?
Oui.
Au sud algérien. Oui. Bon, vous parliez tout à l'heure de quelque chose que vous n'avez pas prévu, et moi non plus, et très peu de gens, ce sont les changements climatiques brutaux que nous avons connus depuis 10 ou 15 ans. Gardaïa est une ville d'ailleurs très belle au sud de l'Algérie qui a connu il y a quelques jours de véritables inondations, mais des pluies torrentielles comme jamais. Je rappelle que cette année même, il a neigé à Bagdad, pour la première fois depuis dans l'histoire, dans la mémoire des hommes. Et à Gardaïa, il venait de semer, et donc les crues ont emporté non seulement la terre, mais les semences qui étaient dedans. Voilà. C'est-à-dire que tout est parti. C'est un véritable désastre.
Oui, parce qu'on va rappeler quand même que le réchauffement climatique, donc à la fois apporte et des inondations et aussi de la sécheresse. Oui, pas partout, évidemment, au même moment.
Non, il faut comprendre que l'inondation apporte la sécheresse.
Voilà.
C'est une chose qui est très difficile à admettre, mais c'est absolument automatique. Oui. On peut dire automatique, oui.
Oui.
Alors, ce que je vous propose, puisque Jean-Claude Carrière, me semble-t-il, vous, lorsque vous n'êtes pas devant un micro et quand vous n'êtes pas effectivement en train de reconstruire un mur de pierre sèche, vous écrivez un petit peu, hein, on est bien d'accord, tel un artisan d'ailleurs.
Ça m'arrive. Je suis avec mon marteau et ma pioche le matin et devant l'ordinateur l'après-midi.
C'est ça. Et donc, vous avez aussi écrit pour une femme que l'on va écouter, c'est Juliette Gréco, voici Un jour d'été. Un jour d'été, donc alors ça c'était tout l'album que vous aviez écrit pour
l'album. On a fait plusieurs, j'ai travaillé assez souvent avec Juliette Gréco, mais là on avait fait tout un album, oui, ensemble.
Quand on aura transformé toutes les forêts en désert, toutes les mers en égouts et tous les chemins en autoroute, vous allez voir que le dernier habitant de la planète va se mettre à réfléchir. Ça sera bête autant.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
J'ai rencontré un homme au bord de l'eau, un jour d'été. Il me demanda de faire un tour en bateau. Je refusais. Il avait une drôle de tête, un petit nez en trompette et des yeux bleus. Il vint s'asseoir près de moi sur la plage.
un jour d'été. Il me demanda caresser son visage. Je refusais. Il avait un coup de soleil, du sable dans les oreilles. Regarda longuement vers la mer un jour d'été. Puis il me dit, venez, je vous offre un verre. Je refusais. Il n'avait pas bonne mine, des doigts pleins de nicotine et des yeux. Je viens d'étrangler ma femme. Un jour d'été, accompagnez-moi sur les lieux du drame. Je refusais. Il avait un chapeau de paille autour du cou, une médaille et des yeux. Il me dit, vous pourriez me sauver la vie. Un jour d'été, venez nager avec moi, je vous prie. Je refusais. Il avait des mains nerveuses, une bague peu coûteuse et des yeux. C'est quelqu'un qui divague. Un jour d'été, il se leva et entra dans les vagues sans se retourner. Il disparut dans l'écume. Je ne vis plus son costume, ni ses yeux.
Sur une musique de Gérard Joannest, paroles de Jean-Claude Carrière, donc Juliette Gréco, un jour d'été, ici, donc toujours en direct à Mouans-Sartoux, donc avec Pierre Rabhi et Jean-Claude Carrière. Vous me disiez effectivement que vous faisiez votre jardin, vous étiez avec un voisin.
Je vous disais d'abord que je viens de gagner 20 ou 30 euros là, par les droits d'auteur de la chanson,
bien
déjà,
sûr,
c'est bien agréable.
Il nous offrait un café. Oui, parce qu'il n'y a pas de petit profit.
Et ensuite, que je fais mon jardin quand j'y passe 2 ou 3 mois par an, avec un voisin qui est resté attaché à sa terre, qui est mitoyen avec moi. Nous faisons un jardin ensemble et nous ne mangeons que les produits de notre jardin, fruits et légumes. Et une des grandes erreurs que nous commettons est de manger des cerises au mois de février. Ça, c'est, il faudrait absolument se concentrer, ce serait la première des règles, sur fruits et légumes de saison. Parce que pour manger des fraises en février, ça suppose une dépense d'énergie colossale. Mm-hmm. Que ces fraises soient faites au Chili ou qu'elles soient faites dans des conditions artificielles par l'agriculture sans terre, comme on l'appelle aujourd'hui, ça coûte très cher à l'énergie.
Alors, il y a un thème, effectivement, que vous aimez beaucoup, Pierre Rabhi, c'est d'expliquer qu'on est vraiment une civilisation hors sol. Alors, évidemment, lorsque l'on a des tomates qui ne connaissent pas du tout la terre, c'est une chose, mais l'individu aussi est hors sol, Pierre Rabhi.
Et les poulets.
Oui, vous savez qu'on est fondamentalement dans le paradigme de la combustion énergétique. C'est à tel point qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on s'est mis dans un traquenard, puisqu'en utilisant cette matière, elle nous a rendu dépendantes, alors qu'elle nous promettait l'indépendance et la liberté. Donc nous sommes vraiment dans un traquenard énorme, et je ne sais pas trop comment on va en sortir. Et je vais revenir aussi à la question de l'alimentation. Je dis beaucoup aux gens, aujourd'hui, l'alimentation est un problème, au-delà d'un problème simplement alimentaire, c'est un problème politique. Je dis qu'aujourd'hui, cultiver son jardin, c'est un acte de résistance. Pourquoi ? Et un acte politique. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous sommes entre les mains de trusts internationaux qui ne cessent de jouer du profit au-dessus de tout le monde. Je ne sais pas si vous avez entendu cette anecdote que je raconte assez souvent du camion de tomates qui quitte la Hollande pour livrer en Espagne. Un autre camion de tomates quitte l'Espagne pour livrer en Hollande. Et ils se sont percutés dans la vallée du Rhône.
Bien sûr.
Alors, il y a eu les tomates hollando-espagnoles qui ont fait connaissance.
Ce qui a fait un coulis de tomates intéressant et international. Oui, bien sûr. Oui.
En termes de quantité, nous allons vers une catastrophe. Deuxièmement, on sait que l'alimentation aujourd'hui est toxique. C'est-à-dire qu'elle est à l'origine de maladies graves. À tel point, je dis, quand on se mettra à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance, parce qu'on sera... Voilà. Donc il y a... Cool. Ou alors vous prenez votre pendule pour savoir, bon, etc.
Oui. Bon.
Donc, et ça, c'est un grand paradoxe du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'incohérence du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la nourriture... depuis des millénaires, depuis l'existence de la vie, est faite pour entretenir la vie. Et cette nourriture, maintenant, est en train de tuer les gens, de provoquer des maladies, etc. etc.
Alors, Pierre Rabhi et Jean-Claude Carrière, je veux dire, à quoi, on va dire, tient cet aveuglement des hommes donc, qui conduit une partie de la planète aujourd'hui au dépôt de bilan, même si, d'ailleurs, nous, on est arrivés il y a 400 000 ans pour l'homo sapiens sapiens, parce qu'il y a intérêt à être doublement sage, vu ce qui se passe. Bon, et qu'effectivement, plus tard, la planète se débrouillera toujours. Bien. Et puis aussi, donc, la mise sous tutelle de cette Terre par quelques milliers d'individus, parce que c'est un petit peu ça que vous nous dites. Pourquoi est-ce qu'on continue, effectivement, comme ça ? Je veux dire, alors, je sais bien qu'on est coincé par les contingences du quotidien, du matériel, hein, c'est pas du yaka faucon, mais d'où ça vient, cet aveuglement ?
Moi, je crois que l'humanité n'est pas intelligente. Contrairement, elle s'est octroyée, en quelque sorte, elle s'est valorisée.
En même temps, vous êtes...
Non, on confond aptitude avec intelligence.
D'accord.
Les aptitudes, nous en avons. Nous faisons des miracles, nous allons vers la Lune, nous faisons des choses extraordinaires. La combinatoire de toutes ces aptitudes donne un système inintelligent. Si les extraterrestres nous observaient, ils diraient ils sont géniaux, mais ils sont crétins. Mmh. On est incapable sur cette merveilleuse planète de créer un monde vivable et sans avoir ce regard de convoitise sur la vie. Mmh. Je raconte souvent cette petite histoire quand j'étais en Ardèche, je coupais mon bois et c'était très difficile. Un jour, je rencontre un ami, il me dit moi aussi c'est difficile, je fais mon bois tout seul. Je lui dis mais pourquoi on s'allie pas, tu viens m'aider. Et une journée, on travaille, on est alors, il n'y a pas de tronçonneuse sans bruit. On a travaillé toute la journée. On voit le résultat, un magnifique tas de bois. Et puis, il y a un coucher de soleil tout aussi splendide. Et je regarde ce coucher de soleil et je me dis, mais que c'est beau, que c'est beau. Et je suis dans le silence, dans l'extase, c'est-à-dire l'admiration. Parce que c'est l'admiration qui est la vocation de l'être humain, ce n'est pas autre chose. Et donc, on regarde... Et il se trouve que sur ce paysage se découpait un arbre magnifique. Alors... J'étais comme ça en extase, mon ami est intrigué, s'approche de moi, je prends par la main et je lui dis « Regarde !» Il me dit « Il y a au moins 10 terres.
Et oui.
Ça résume en quelque sorte la vision que nous avons sur...
Vous l'avez coupé, naturellement.
Comment regardons-nous la vie ?
Oui,
comment approchons-nous la vie ? Est-ce que nous allons résoudre le problème de la subordination du féminin au masculin ? Ce qui est totalement inintelligent aussi. Et si on liste les choses qui sont de l'ordre de l'inintelligence humaine, c'est parce qu'on a cru que l'intelligence est une question de cerveau. Non, ce n'est pas une question de cerveau. L'intelligence est dans la vie elle-même.
Alors, la preuve aussi avec vous, Jean-Claude Carrière, parce qu'une fois sur France Inter, quand vous faisiez vos papiers le matin, vous aviez une très, très belle histoire, une belle métaphore qui résume un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, enfin dans le monde occidental, pardon. C'est une métaphore de la folie du joueur de flûte de Hamelin, bon, qui est donc cet homme-là qui était dans les Flandres. On lui a dit, mon petit bonhomme, est-ce que vous pouvez nous débarrasser des rats ? Il a dit, oui, pas de problème, je débarrasse des rats, donc je joue ma flûte et puis j'emmène les rats. Et puis, ben voilà, ça coûte tant. Oui, mais on ne peut pas vous payer. On ne veut pas vous payer. Très bien, je reprends ma flûte et puis j'emmène les enfants. Et les enfants sont partis se noyer. Et vous comparez cela à quoi, Jean-Claude Carrière ?
Oui, ça, c'est une vieille métaphore. Il faut dire que les rats étaient accusés d'apporter la peste dans cette ville et que donc, on imaginait qu'en jouant de la flûte, on amènerait les rats jusqu'au fleuve où ils iraient se noyer. Aujourd'hui, il me semble que nous sommes, pour employer un mot que j'aime assez, nous avons été séduits par nos propres prouesses, par ce que nous nous sommes racontés nous-mêmes de notre intelligence, de notre aptitude à survivre, entre guillemets, qui est loin d'être prouvée, de notre faculté de nous adapter. Tout cela sont des mots que l'on entend un peu partout. Et il me semble aujourd'hui que le joueur de flûte est toujours là, qu'il est bien entendu une partie de nous-mêmes, car nous sommes nos propres tentateurs, nos propres séducteurs et nos propres séduits, mais qu'aujourd'hui, le joueur de flûte va se noyer avec les rats. C'est-à-dire que plus rien ne pourra le sauver, lui aussi. Il n'enverra pas les rats au fleuve pour ensuite revenir et éventuellement y amener aussi les enfants. Non, il va se noyer lui aussi. Et c'est ça le plus étrange. C'est ça, je ne vois pas comment ceux qui aujourd'hui dirigent ces grandes sociétés agroalimentaires desquelles vous parliez, ou l'industrie de l'aliment, des vivres dans le monde, ou autres, pourraient se sauver. Ils ont eux aussi des enfants qui sont tout aussi menacés que les nôtres. Bien absolument. Sûr. Ils mangent eux aussi des aliments qui sont tout aussi toxiques que ceux qu'ils nous proposent. Mmh. Donc j'imagine mal comment le joueur de flûte aujourd'hui pourrait s'en sortir. J'ai très peur pour lui, quelle que soit la beauté de sa musique.
Alors on va rajouter, si vous le permettez, donc un peu de spiritualité qui vous est chère à l'un et à l'autre, avec un homme que vous connaissez, qui est Jean-Marie Pell, donc il n'est pas avec nous en direct, mais qui a sorti un formidable bouquin qui s'appelle Nature et spiritualité, donc il n'y a pas tellement longtemps. Et je voulais vous proposer donc cette partie d'entretien que j'avais eu en début d'année avec lui. Et il nous fait un petit peu le point commun qui existe entre les quatre religions donc monothéistes. Et vous allez voir qu'on est complètement au cœur du sujet. Donc ce point commun, Jean-Marie, donc quel est-il ?
J'ai trouvé quatre points. Le premier est très important, c'est l'idée que le sort de l'homme et de la nature sont étroitement liés. On le sait bien, quand la nature se fâche, ben c'est les grandes catastrophes naturelles. Oui. Quand il y a le tsunami, le sort de l'homme, bon, il en pâtit. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est que quand l'homme déraille, la nature en pâtit. Alors dans la Bible, on a ces deux exemples. Quand Adam et Ève sont chassés du paradis, il est dit « la terre se met à faire pousser des chardons ». Elle est fâchée.
Ah d'accord, oui.
Fâchée. Et quand il y a le déluge où l'homme est sauvé in extremis, eh bien, la nature est sauvée avec. Tous les animaux montent dans l'arche. Oui. Et donc, les sorts de l'un et de l'autre sont étroitement liés et sont communs. Et alors, c'est aussi très net dans l'islam, où il y a continuellement l'idée de la mesure, l'idée de l'équilibre qu'on ne doit pas troubler. Oui. Or, nous avons troublé complètement les équilibres et nous nous ramassons avec le réchauffement climatique. Nous avons détraqué la nature.
Alors, deuxième point aussi extrêmement important, c'est cette notion de sobriété. On va dire société de modération aujourd'hui, dont on n'a pas tellement envie d'entendre parler. Mais ça aussi, on retrouve cela dans les différentes religions.
Absolument. Alors, pour ne pas faire dérailler, il ne faut pas abuser des ressources naturelles et donc ne pas épuiser et polluer la terre. Eh bien, c'est ce que font les Indiens. On en reparlera. Ils sont extrêmement parcimonieux dans l'utilisation des ressources. Quand les cow-boys tiraient brutalement sur les oiseaux et les bisons, ils étaient épouvantés. Ils ne supportaient pas ça du tout. Les bouddhistes veulent éteindre les désirs pour donc limiter la consommation et ainsi protéger les ressources de la terre, ne pas les exploiter et ne pas les gaspiller. Et les premiers chrétiens... Ben, cette notoriété publique menait une vie sobre parce qu'elle était orientée vers une élévation spirituelle qui supposait qu'on ne consomme pas trop de choses matérielles pour avoir la tête qui puisse fonctionner, le cœur aussi. S'il n'y a que le ventre qui fonctionne, oui, le cœur ne fonctionne plus, la tête non plus.
Et alors, cher Jean-Marie, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate ? C'est qu'évidemment, nos sociétés appliquent totalement donc ces préceptes.
Totalement. C'est-à-dire qu'on fait totalement l'inverse. Oui. On a une boulimie de consommation extraordinaire, on gaspille énormément, on est terriblement matérialiste, on est consumériste, on épuise les ressources de la Terre, au point d'ailleurs qu'on craint ne plus rien laisser à nos enfants. Et du coup, on a inventé in extremis l'idée de développement durable. Il faut laisser un peu quelque chose à nos enfants.
Oui. Alors quand même, il y a aussi l'ennemi de l'homme pour les Grecs. Rappelez-nous ce que c'était.
Alors c'est la troisième idée. Les Grecs disaient le grand risque pour l'humanité, c'est ce qu'ils appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Mmh. C'est ce qui se passe quand l'homme se prend pour un dieu. Alors les Grecs avaient un homme qui s'est pris pour un dieu, c'était Prométhée.
Ah oui,
il est monté à l'Olympe, il a pris les secrets des dieux, il les a ramenés sur terre, l'agriculture, le travail des métaux et tout ça, mais les dieux ont été très fâchés et ils l'ont collé sur un rocher, enchaîné, et un aigle lui rongeait le foie. Oui. Ça veut dire que l'homme meurt quand il se prend pour un dieu. Ben, c'est exactement pareil avec Adam et Ève. Mmh. Quand ils ont croqué la pomme, le serpent a dit « Vous deviendrez comme Dieu ». Eh bien, c'était raté.
Et dans le Coran, alors, Jean-Marie ?
Eh bien, dans le Coran, on a la même idée. Allah punit ceux qui vont dans la démesure. Bon. C'est la même idée. Alors, notre société, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle est prométhéenne. La science, d'abord, a déboulonné Dieu, ça, comme chacun peut le constater. Et puis, elle a produit toute une collection d'apprentis sorciers qui mélangent des cellules de cheval avec des cellules humaines, qui clonent, qui bricolent les embryons, qui font toutes sortes d'OGM dont certains sont quand même très suspects. D'où le fait que les gens s'interrogent sur le progrès, d'ailleurs. Oui. Et qu'ils ne sont plus tout à fait sûrs qu'il faut laisser les scientifiques faire n'importe quoi. Mmh. Donc, sur ce plan-là aussi, nous sommes en complet décalage avec ce qu'ont dit les grandes traditions.
Pierre, le quatrième point.
Ben, le quatrième point, c'est l'idée de l'altruisme. C'est la loi d'amour chez les chrétiens, c'est la compassion chez les bouddhistes. C'est l'idée qu'il ne faut pas dire « moi, je ». Il faut dire « nous ». Et ça, c'est encore une fois en décalage parfait avec le monde dans lequel nous sommes, où je me fais plaisir, c'est ton problème, j'en ai rien à foutre, etc. On pourrait continuer comme ça indéfiniment.
Je consomme donc je suis.
Je consomme donc je suis. Donc on est en décalage. Alors ce décalage, il est extraordinaire parce que notre société va à l'inverse de ce qu'ont préconisé toutes les sagesses et toutes les religions. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se disent mais si on est dans le mur ? Parce que les gens se posent cette question.
Merci beaucoup Jean-Marie Pell, c'était notre grande série « Tout va très bien dans le monde ».
Au revoir à tous, au revoir Denis.
Voilà, merci Jean-Marie. Donc alors, peut-être réaction de votre part, Pierre Rabhi et Jean-Claude.
Il est très important de réagir à une chose, c'est que c'est un cinquième de l'humanité qui épuise les ressources. Il ne faut pas oublier que c'est un cinquième de l'humanité qui festoie. Et il ne faut pas oublier que c'est le G7 et le G8 qui mettent la main sur les ressources communes abusivement, en affamant et en dépensant le patrimoine qui devrait être considéré comme le patrimoine collectif de l'humanité et non pas l'ensemble de l'humanité. Donc il faut bien préciser, la fameuse empreinte écologique dit que si tout le monde voulait vivre comme un Américain, il faudrait 6 à 7 planètes. Donc il faut vraiment pas faire de l'occidental la vision restreinte, mais la vision globale. Mm-hmm. Et dans la vision globale, si nous festoyons, c'est parce que nous faisons crever les autres, et c'est comme cela que nous festoyons. Ça a été la Trente Glorieuse où on a dit l'Occident a atteint, etc. Magnifique. Sauf qu'on a occulté que la planète entière fournissait à l'Occident du pétrole pas cher, des matières premières pas chères, des travailleurs pas chers, etc., etc. Donc il faut toujours resituer les choses dans le contexte global, sinon on revient à cette fameuse. Évidemment, si on avait le temps, j'aurais pu dialoguer avec Jean-Claude. Je suis pas totalement d'accord avec la question démographique, mais ça sera pour une autre fois. La question démographique ne se pose pas en termes d'insuffisance de ressources sur la planète.
Et de répartition.
Tout le monde dit l'Afrique c'est pauvre, sauf que l'Afrique c'est immensément riche. Et il y a 800 à 900 millions d'individus. Elle représente 10 fois la superficie de l'Inde, avec seulement 800 à 900 millions d'individus. Elle n'a pas atteint on a calculé que l'Éthiopie cultivait correctement, on y aurait tout l'ensemble des Africains. Donc il y a des nuances à apporter par rapport à ça. Sinon, on est dans la culpabilisation. Ils grouillent trop, donc il ne faut plus qu'ils grouillent. Et c'est un peu le discours qui est mené aujourd'hui par les repus. Oui. C'est-à-dire que c'est les repus qui font le procès de la démographie. Voilà.
Alors, Jean-Claude Carrière.
Bon, je voudrais dire deux choses concernant Jean-Marie Pelt, que je connais, que j'aime beaucoup. Dans le bouddhisme, il y a en effet un concept central qui peut nous aider beaucoup aujourd'hui, c'est celui d'interdépendance, sur lequel le bouddhisme insiste depuis près de 3000 ans, qui est qu'on ne peut pas séparer un élément des autres, qui n'entoure aucun élément. Et que tout dépend de tout ce qui l'entoure. Nous ne sommes pas, si nous reprenons la fameuse image de la roue de l'univers, Nous ne sommes pas le moyeu de cette roue, nous ne sommes pas l'axe de cette roue, nous sommes un rayon parmi d'autres, à part que ce rayon s'est donné le moyen de détruire les autres, ou en tout cas de les empêcher de tourner rond. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il ne faudrait pas oublier tout de même que dans notre tradition judéo-chrétienne, Dieu a donné le monde à l'homme, et le monde et toutes les créatures, elles appartiennent. Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous venons de cette idée que la terre, comme l'ont dit tous les théologiens, nous en sommes les maîtres et possesseurs. Donc nous en faisons ce que nous voulons. Et nous en voyons le résultat aujourd'hui.
Écoutez, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'à Montsartou, et puis partout, aussi bien localement que globalement, nous puissions grandir en humanitude, comme le dit assez souvent Albert Jacquard. Je voulais vous remercier de tout cœur. Vous pouvez vraiment applaudir nos deux intervenants. Et moi, je vais remercier toute l'équipe de France Bleu Azur, Rémi Martinez, Pierre Schwab, Olivier Claude, Jean-Luc Souchaud, Anne-Sophie Ledoré, notre assistante, Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pessugia, donc, qui réalisait cette émission. Merci à Emmanuel Chupin qui a choisi donc les disques, à notre cyber-documentaliste Anne Bouzon donc, qui nourrit les sites. Possibilité pour vous de réécouter cette émission donc pendant une semaine, et puis pendant 4 semaines, pardonnez-moi, et puis de l'enregistrer pendant une semaine. Et cette émission sera rediffusée cette nuit à 4h du matin dans l'émission nocturne de Brigitte Palchine. Denis Chessou, je vous souhaite un excellent week-end et qui va se poursuivre dans quelques instants avec Fabienne Chauvière. Son émission Rencontre avec un scientifique s'appelle Les Saventuriers, et vous irez découvrir qui ? Brigitte Senu, qui est une femme qui est paléontologue. A très bientôt, et demain, la tue du Mont Petit Loup, ce sera dimanche à 19h55, juste après Maman, les petits bateaux, France Inter, il est 15h.